Orange, cyber défense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption, it's now.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un groupe activiste assez fascinant, Vero Days X. Un collectif qui a pas mal évolué, passant d'actions purement idéologiques à un modèle hybride beaucoup plus complexe avec des outils comme le ransomware BQTLock.
Alors, cette analyse, elle s'appuie notamment sur des travaux du Cyber Intelligence Bureau, qui est une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Eux, ils ont une approche intéressante, vous allez voir. Ils combinent l'OSINT, l'analyse des sources ouvertes, avec du HUMINT, donc des infos plus de terrain, mais aussi avec une lecture émotionnelle et cognitive des cybermenaces. C'est assez pointu. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu tout ça. Les méthodes de 0DX, leur motivation, et surtout cet usage des tactiques psychologiques et même de l'intelligence émotionnelle pour recruter. On va parler d'un bot, BQET, et on regardera aussi ce que les sources nous disent sur leurs cibles potentielles pour l'avenir. Alors commençons peut-être par la base. Qui est ce groupe 0DX qu'on appelle aussi parfois l'Iwa Mohamed?
Oui. Alors, 0DX1, d'après les infos qu'on a, il serait principalement originaire du Liban, peut-être avec des liens au Maroc. Ils sont apparus début 2023.
D'accord. Leur positionnement idéologique est très clair, pro-palestinien. Ils se définissent comme une résistance cyber-islamique, avec une hostilité très marquée envers Israël et les intérêts occidentaux. Au début, c'était de l'activisme assez classique.
Classique, c'est-à-dire ?
D'effacement de sites, attaque des DOS.
Exactement. Les actions habituelles pour faire passer un message, pour attirer l'attention. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est leur pivot vers mi-2025. Là, ils changent de braquet, si on peut dire.
Ah ouais ? Comment ça ?
Ils adoptent ce qu'on appelle un modèle hybride. Ils gardent leur discours idéologique, hein, ça reste très présent, mais ils ajoutent une motivation financière. Et ça, c'est matérialisé par le lancement de leur propre ransomware service, BQTLock, en juillet 2025.
Un RAS, donc, ils louent leur ransomware à d'autres.
C'est ça. Ils fournissent l'outil, l'infrastructure et des affiliés mènent les attaques, puis ils partagent les gains. C'est une forme d'industrialisation, en quelque sorte.
Et on a vu des résultats concrets de ce BQTLock.
Oui, assez vite. Des victimes aux Émirats Arabes Unis ont été signalées peu après. Mais ils n'ont pas lâché leur cible politique pour autant. On a des infos sur des compromissions d'emails visant le ministère de l'Intérieur italien ou même le parti des forces libanaises au Liban.
D'accord, donc ils jouent sur les deux tableaux. L'argent et l'impact politique.
Tout à fait. Cette dualité est vraiment leur marque de fabrique maintenant.
Parlons de ce BQTLock justement. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ?
Bon, techniquement, c'est un RAMS modulaire plutôt bien fait. Mais sa vraie force, c'est la double extorsion. Bien sûr, il chiffre les fichiers AES256, RSA4096, du solide. Mais surtout, avant ça, il exfiltre massivement les données. La fameuse double peine. Payer pour déchiffrer et payer pour qu'on ne publie pas vos données volées.
Exactement. Et ils ont un site de fuite de données pour mettre la pression. C'est psychologiquement très efficace.
Techniquement, il a aussi tout un arsenal pour éviter la détection, pour persister sur le système, contourner les protections Windows.
Il essaie de s'installer durablement et discrètement.
Oui, et surtout, il s'attaque aux sauvegardes, aux shadow copies de Windows, pour rendre la récupération sans payer très très compliquée.
C'est méthodique. Et comment il arrive chez les victimes, ce ransomware ?
Les méthodes d'accès initiales sont assez classiques. Phishing, ciblé, exploitation de vulnérabilités, peut-être des 0Days, et compromission d'emails professionnels. Pour le paiement, c'est Monero, pour l'anonymat, avec des délais très courts pour mettre la pression.
Ok, on voit l'aspect technique et financier. Mais vous disiez que les sources, notamment celles du Cyber Intelligence Bureau, insistent beaucoup sur la dimension psychologique.
Absolument. C'est là que ça devient particulièrement intéressant et, disons-le, inquiétant. Leur approche n'est pas que technique, elle est cognitive, émotionnelle. Ils adaptent vraiment leur manipulation psychologique en fonction des cibles.
Ils ne manipulent pas pareil en Occident et ailleurs ?
Non. Par exemple, en Occident, ils vont jouer sur la peur, l'urgence, compte à rebours, preuve de l'intrusion. Ils savent aussi exploiter la peur des amendes réglementaires, genre RGPD, et l'impact sur la réputation, surtout dans la finance, la santé.
Des points sensibles dans nos sociétés, voilà. Alors que dans des régions jugées plus instables, ils peuvent jouer sur d'autres leviers. Suspicion envers les institutions, polarisation sociale, accusation de corruption. L'objectif est plus de déstabiliser collectivement.
Et ça se traduit comment, concrètement?
Le ton des messages.
Oui, le ton, le contenu anxiogène, les menaces explicites.
Mais aussi l'image qu'ils projettent. Anonyme, puissant, insaisissable. C'est une construction. Ils peuvent utiliser la désinformation ou au contraire la surcharge d'infos pour épuiser la victime. C'est vraiment multiniveau. C'est une stratégie psychologique assez élaborée.
Et ça nous mène à ce fameux BOT, B-I-Q-T-O-S-I-N-T, et l'utilisation de l'intelligence émotionnelle pour le recrutement. C'est ça qui est particulièrement frappant. Exactement. Ce bot Telegram, @bqtosintbot, lancé en octobre 2025, officiellement, c'est un outil d'aide à l'OS Sint. Mais l'analyse suggère qu'il sert surtout d'outil de recrutement et de grooming, de préparation psychologique. Et il le fait en intégrant des techniques d'intelligence émotionnelle, l'IE.
L'intelligence émotionnelle, donc la capacité à comprendre et gérer ses émotions et celles des autres. Pourquoi utiliser ça pour recruter dans la cybercriminalité ?
Plusieurs raisons possibles. D'abord, c'est asymétrique. C'est moins coûteux et plus discret que des opérations techniques complexes pour trouver des recrues. Ça permet d'exploiter les failles émotionnelles, frustration, colère, sentiment d'injustice, pour attirer des gens vers leur cause.
Voilà. Et ensuite, ça pourrait servir à fidéliser les recrues. Les groupes comme ça ont souvent beaucoup de défections. Créer un lien émotionnel fort pourrait aider à maintenir la cohésion. Et comment ce bot BQT applique concrètement l'intelligence émotionnelle ?
Alors, les sources décrivent un processus en plusieurs étapes qui est assez méthodique.
Première étape, l'induction de la conscience de soi. Le bot pose des questions personnelles, genre « Quelle injustice vous motive ? Pourquoi cette colère ?» Ça pousse la personne à verbaliser ses émotions et ça permet au groupe d'identifier les profils intéressants. Il les fait réfléchir sur eux-mêmes, en quelque sorte.
C'est ça. Deuxième étape, créer un rapport, simuler l'empathie. Le bot utilise le traitement du langage naturel pour imiter le style de l'utilisateur, valider ses sentiments. Nous comprenons votre colère, votre frustration est la nôtre. Il crée un sentiment de victimisation partagée. Il fait semblant de comprendre pour créer un lien.
Astucieux et cynique. Troisième étape, la motivation par renforcement. Le bot donne des petites tâches OSINT à faire et il récompense, mais pas toujours pareil. Des badges, des points, c'est le principe de la récompense variable, très addictif, basé sur la dopamine.
Comme dans les jeux vidéo.
Une sorte de gamification du recrutement radical.
On peut voir ça comme ça, oui. Et enfin, quatrième étape.
L'intégration au groupe. Les plus actifs sont invités dans des canaux privés. Le bot dit « Rejoignez nos guerriers, c'est la preuve sociale ».
Ça les isole et les plonge dans une chambre d'écho où l'idéologie est renforcée.
C'est un processus de manipulation vraiment structuré, automatisé via un bot, extrêmement préoccupant.
Du coup, avec ces méthodes, qui sont leurs cibles principales aujourd'hui ?
Le ciblage reflète bien leur double nature. On voit des attaques contre les gouvernements, pour le symbole, les données, les organisations politiques, déstabilisation, les entreprises et l'éducation, plus accessibles, pour l'argent du ransomware, et les secteurs plus sensibles. Oui, ça émège.
D'accord.
La finance, le pétrole, pour le potentiel de rançon élevé, et la menace potentielle sur les infrastructures critiques, même si c'est encore moins documenté pour des attaques réussies à grande échelle. Et géographiquement, toujours Israël, Liban, mais aussi l'Europe.
Oui, Israël reste une cible clé, idéologique, mais on voit beaucoup d'activités aux États-Unis, au Liban, aux EAU et en Europe. L'Italie, l'Allemagne, la France sont mentionnées comme zones d'intérêt ou de victimes. Le choix semble être un mélange d'idéologie, d'opportunisme technique et financier et de recherche d'impact psychologique.
D'accord. Et pour l'avenir, Véline, quelles sont les hypothèses les plus sérieuses ?
Les sources dégagent deux scénarios principaux. Le plus probable, une intensification des campagnes de phishing ciblant des entreprises financières, surtout des PME, en Europe. Italie, Allemagne en première ligne. Avec des variantes de BQT Lock et des leurres joints sur la cause pro-palestinienne.
Donc, une continuation de leur modèle actuel, centré sur l'Europe pour l'argent, et le scénario le plus dangereux, ce serait une attaque coordonnée, peut-être avec la version Linux de BQT Lock, visant les systèmes SCADA d'infrastructures critiques. On parle de raffineries, d'usines de désalinisation, dans des pays du Golfe comme les EAE ou l'Arabie Saoudite. Ça pourrait impliquer des zero days, voire des initiés recrutés via le bot BQTLEX. Là, l'impact serait potentiellement énorme, physiquement et géopolitiquement. Bon, en résumé, zero days sur six, c'est vraiment un acteur hybride. Technique solide avec BQTLOC, mais surtout une utilisation très calculée de la psychologie de l'intelligence émotionnelle.
Absolument. Et c'est ça qui pose question, au-delà de ce groupe. Ces tactiques de manipulation psychologique, d'exploitation des biais cognitifs, de l'IA, elles deviennent de plus en plus accessibles, outillées, intégrées aux cyberattaques. Ce qui nous amène à la question finale, Sam, comment on se défend contre ça ? Il ne suffit plus de patcher les systèmes. Comment contre la manipulation de l'humain ? C'est tout l'enjeu. Il faut intégrer cette dimension humaine, cognitive, émotionnelle dans nos défenses. Formation, sensibilisation, comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour ne pas tomber dans le panneau. C'est une réflexion cruciale pour l'avenir de la cybersécurité.
Une réflexion essentielle en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à vous de nous avoir écoutés.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.